Merci Anne, nous sommes en effet à Avignon, mais pas en direct, enfin si en direct bien sûr, mais pas en public au musée Calvé, pluie oblige. Nous sommes dans la petite école des Ortolans, à 12h45 nous parlerons marionnettes avec Célia Houda, Renaud Herbin, Bérangère Ventusso et Joanne Hibert. Et puis en seconde partie, portrait croisé de Laetitia Doche et Jonathan Capdevielle. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal présenté par Antoine Mercier.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron entretient l'ambiguïté sur ses intentions présidentielles. Le ministre de l'économie tient meeting ce soir à la Mutualité. Analyse de Frédéric Seyss dans un instant. David Cameron préside son dernier conseil des ministres. Il cède la place demain à la tête du gouvernement britannique à la ministre de l'Intérieur, Theresa May. Nous serons en ligne avec Annabelle Grelier à Londres. Les ministres des Finances de la zone euro déclarent l'Espagne et le Portugal en dérapage budgétaire. Correspondance à Madrid avec Marie-Hélène Ballestero. Après le passage de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs, le groupe socialiste du Parlement européen appelle à des mesures d'urgence. On sera en ligne dans cette édition avec l'eurodéputé Emmanuel Morel. L'action Nintendo poursuit sa hausse spectaculaire en raison du succès de son nouveau jeu pour smartphone qui s'appelle Pokémon Go, dont Abdelhak El Idrissi nous dira les ressorts du succès. Les observateurs politiques en attendent donc de nouvelles déclarations ce soir peut-être d'Emmanuel Macron sur son avenir présidentiel. Le ministre de l'économie est en tout cas en meeting ce soir à la Mutualité. Après avoir lancé son mouvement En Marche au printemps, il réunit ses soutiens et nous sommes à 2 jours de l'intervention télévisée du 14 juillet de François Hollande. Je prends le pari, disait ce matin un proche de François Hollande, Julien Drey, qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat à l'Élysée et qu'il sera en fait à côté du chef de l'État en 2017. Alors est-il avec ou contre? Est-il de gauche? Est-il de droite? Est-il prêt à y aller ou pas y aller cette fois-ci? Pour l'heure, le macronisme prospère surtout à l'ombre des ambiguïtés. Frédéric Seyss.
Oui, à l'image de ce bandeau vu ce matin sur une chaîne d'information en continu, Emmanuel Macron pourrait annoncer ou non sa candidature à la présidentielle. Le phénomène Macron est en effet un concentré d'ambiguïté. D'abord sur l'économie, il est à la fois pour la dérégulation, contre ce qu'il appelle les rentes. Il veut par exemple revoir les diplômes d'accès à certaines professions. Et en même temps, il se veut très sourcilleux sur la place des pouvoirs publics au sein des grands groupes industriels. C'est ainsi qu'il a organisé la montée au capital de l'entreprise Renault pour garantir à l'État un droit de vote double au conseil d'administration, ce qui avait d'ailleurs occasionné une brouille avec le PDG de Renault, Carlos Ghosn. Ambiguïté encore dans le positionnement politique, pas de droite, pas de gauche, disait-il lors du lancement à Amiens de son mouvement En Marche. « Je suis de gauche », réaffirmait-il. Pourtant, il y a quelques jours, le ministre de l'économie est souvent rangé à l'aile droite du Parti Socialiste, mais il est plus ouvert sur les questions sociétales, y compris lorsqu'il estime que la société française a une responsabilité dans le terreau qui a fait éclore des terroriste. Ambiguïté dans l'ambition également, il n'a jamais dit qu'il serait candidat mais n'a jamais démenti vouloir l'être. En privé, François Hollande explique cette attitude par le fait que le jeune ministre de l'économie a peur, selon lui, de ne plus intéresser les médias. Ambiguïté vis-à-vis de François Hollande, justement, Macron proteste de sa loyauté et loue l'intelligence du président de la République. Dans le même temps, il dénonce le manque de leadership symbolisé, selon lui, par l'existence de la primaire de gauche. Dans Le Monde, daté de demain, Emmanuel Macron va un cran au-delà, ni rabatteur ni traître, explique-t-il. Je construis une offre politique nouvelle qui n'est pas celle de François Hollande.
Voilà, qui continue d'intéresser les médias. Merci beaucoup Frédéric Seyss. Passation de pouvoir en Grande-Bretagne, donc David Cameron préside son dernier conseil des ministres aujourd'hui. Il va remettre demain sa démission à la reine et puis Theresa May sera donc investie aussitôt après. Dans sa première déclaration publique, elle affirme vouloir que le Royaume-Uni négocie le meilleur accord de sortie de l'Union européenne et qu'il se construise, dit-elle, un nouveau rôle dans le monde. Elle s'engage par ailleurs à placer le gouvernement au service, dit-elle, des gens simples qui travaillent. Le référendum du 23 juin est un vote en faveur de sérieux sans changement, ajoute-t-elle. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Ah, finalement, discours assez nouveau puisqu'il prétend tenir vraiment compte de ce qu'ont dit les électeurs britanniques.
Oui, dans son premier discours, Theresa May a en effet dressé les 3 grandes lignes de son plan d'action. 1. Négocier au mieux la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, histoire de rassurer le monde des affaires. Mais en fait, tout ça est encore très flou. En revanche, sur les questions sociales, la nouvelle Premier ministre a annoncé la couleur. Les Anglais ont voté pour du changement, dit-elle, assurant avoir compris leur défiance vis-à-vis de la politique traditionnelle. Nous avons besoin d'un gouvernement qui produise une solide réforme sociale et d'un pays qui travaille pour tout le monde. C'est tout de même un constat sévère hein, qu'elle dresse en creux du bilan de David Cameron. Les inégalités sociales, en effet, n'ont cessé de se creuser dans le pays. Et derrière les bons chiffres macroéconomiques, comme le retour à la croissance ou encore la baisse du chômage, la réalité est moins rose. Le programme d'austérité a réduit de nombreuses prestations sociales, réduit les marges de manœuvre des services publics, et notamment les hôpitaux, les écoles, à tel point que les Anglais sont de moins en moins égaux face aux problèmes de santé et d'éducation. Côté emploi, même chose, la précarité s'est durablement installée et nombre de salariés travaillent à temps partiel et doivent occuper plusieurs jobs pour boucler leur fin de mois. Theresa May a donc orienté, et c'est plutôt rare pour un Premier ministre conservateur, son discours sur des questions sociales. Elle a même soulevé les problèmes de gouvernance au sein des grandes entreprises en proposant d'installer des représentants des travailleurs dans les conseils d'administration et de resserrer les contrôles sur les salaires des dirigeants.
Merci beaucoup Annabelle Grelier, donc en direct de Londres. Les ministres des Finances de la zone euro doivent prendre acte aujourd'hui des dérapages budgétaires du Portugal et de l'Espagne et ils pourraient pour la première fois donc imposer des sanctions à ces deux pays. Lisbonne et Madrid disposent de 10 jours pour prouver qu'ils sont confrontés à des circonstances économiques exceptionnelles ou proposer des mesures de correction. En tout cas, le vice-président de la commission chargée de l'euro assure qu'il y aura une possibilité pour ces pays de soumettre des requêtes motivées pour réduire en tout cas les sanctions annoncées ou potentielles, ou même probablement les ramener à zéro. On est en ligne avec Marie-Hélène Ballestero, bonjour.
Bonjour Antoine.
Comment l'Espagne, qui est, on le sait, en pleine crise politique, qui tente de former une nouvelle majorité après les élections, vit-elle cette menace de sanctions de la part de Bruxelles ?
Eh bien, l'Espagne est en fait toujours confiante, elle espère encore pouvoir éviter cette sanction. Le ministre espagnol de l'économie, De Guindos, n'a cessé de rappeler que son pays a divisé par deux son déficit public depuis l'arrivée au pouvoir de Mariano Rajoy fin 2011, et ce grâce à de grands efforts budgétaires et bien sûr au prix d'une politique d'austérité qui a été très critiquée par beaucoup d'Espagnols. L'Espagne est passée d'un déficit de 11,1% en 2009 à 5,1% en 2015. Elle espère donc que tous ces efforts seront pris en compte et qu'elle pourra ainsi éviter cette amende. Hier encore, à son arrivée à Bruxelles, le ministre De Guindos s'est montré confiant et optimiste. Pour lui, une sanction serait un non-sens et il reste convaincu que l'amende sera au final égale à zéro. Le quotidien El País évoque aujourd'hui la possibilité d'une sanction symbolique qui dépendra, comme vous le disiez Antoine, des mesures de correction proposées par l'exécutif espagnol, des nouveaux objectifs de déficit fixés et des réformes engagées. Mais c'est une tâche qui s'annonce pour l'instant compliquée car l'Espagne reste toujours sans gouvernement, pressée par Bruxelles. Rajoy espère pouvoir trouver des alliés pour être investi fin juillet et pouvoir gouverner. Mais pour l'heure, eh bien, rien n'est encore fait en Espagne.
Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. L'autre affaire qui ne rehausse pas vraiment le prestige de l'Europe, c'est l'embauche par la banque Goldman Sachs de l'ancien président de la Commission, José Manuel Barroso. Hier, le président de l'Assemblée nationale française, le socialiste Claude Bartolone, l'a jugé risible. Recruter M. Barroso chez Goldman Sachs, symbole du néolibéralisme financier comme conseiller dans le contexte du départ annoncé du Royaume-Uni de l'Union, revient, je cite encore M. Bartolone, à demander au pyromane de conseiller les pompiers. Alors au Parlement européen maintenant, le groupe socialiste a fait un communiqué hier, il appelle à des mesures d'urgence et nous sommes pour en parler avec Emmanuel Morel. Bonjour.
Bonjour.
Eurodéputé socialiste français, qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Déjà, il y a une forte émotion au Parlement européen parce que c'est quand même navrant de voir quelqu'un qui était censé incarner l'intérêt général de l'Union européenne il y a encore quelques mois, aller cachetonner dans une institution financière aux pratiques très douteuses. Et Claude Bartolone dit que c'est risible, moi je dis que c'est grave. Alors cette émotion, il faut maintenant qu'on la traduise avec des actes et des mesures urgentes. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà que M. Barroso soit sanctionné. Je pense qu'on peut demander la déchéance de son droit à pension, c'est-à-dire qu'il a déjà coûté très cher à l'Europe. Le fait qu'il reçoive une retraite très confortable dans ce cadre-là me paraît relativement insupportable. Ensuite, nous demandons une révision du code de conduite. Vous savez, c'est le règlement intérieur qui régit le comportement des commissaires. Aujourd'hui, ils avaient 18 mois et au bout de 18 mois, ils pourraient aller faire ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'il faut porter cette durée à 5 ans pour durcir les règles anti-pantouflage. Et puis enfin, ce qui me paraît très important, il faut que nous exigions une traçabilité intégrale de tous les contacts entre M. Barroso au nom de Goldman Sachs avec les membres, les fonctionnaires, les représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, parce qu'évidemment, le risque de conflit d'intérêts, il est majeur. C'est la raison pour laquelle nous, on se mobilise aujourd'hui pour qu'il n'en reste pas, que la situation change. Parce que l'effet, vous l'avez dit à l'instant, est désastreux. Les gens se disent, mais voilà, cette Europe dirigée par des gens...
Comment vous allez pouvoir expliquer aux gens, effectivement, que cet épisode n'est pas précisément la révélation d'une réalité qui est le lien qui existe entre la finance, par exemple, et la Commission européenne?
Ah ben non, mais ce lien, il existe, et de ce point de vue-là, Monsieur Barroso...
Donc c'est ça qu'il faudrait, c'est là-dessus qu'il faudrait agir, peut-être, plutôt que...
Mais c'est ce que nous allons faire, c'est pour ça que nous mobilisons le Parlement, y compris pour envisager des mesures de boycott par rapport à Goldman Sachs, dont je rappelle que c'est une institution qui a été mouillée dans tous les scandales financiers de ces dernières années, aussi bien pendant la crise des subprimes que pendant la crise grecque. Hein. Goldman Sachs, c'est eux qui ont conseillé le gouvernement grec pour maquiller les comptes qui a permis à la Grèce de passer dans la zone euro. Donc cette espèce de bras d'honneur, de coup de poignard que fait Barroso, a au moins un mérite, c'est qu'il met en lumière cette collusion insupportable entre les élites dirigeantes et les élites financières. Il faut y mettre un terme, c'est-à-dire en gros, l'idéal, mais c'est le cas en Europe, on pourrait en parler en France aussi, hein, c'est de mettre un terme à ce pantouflage qui fait réagir les gens et surtout qui est un formidable moteur à tous les populismes d'Europe. Parce que là, vous voyez bien que l'extrême droite n'a même plus grand-chose à faire, elle n'a qu'à montrer ce qui se passe.
Merci beaucoup Emmanuel Morel d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. La France condamnée pour sa pratique de rétention des enfants étrangers en bas âge. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a rendu ce matin 5 arrêts dans 5 affaires différentes qui concernent le placement en rétention administrative de plusieurs familles d'origine roumaine et tchétchène placées dans des centres de rétention alors que les enfants n'avaient pour certains que quelques mois. 5 arrêts donc qui vont tous dans le même sens. Florence Turme, la CEDH estime qu'il s'agit d'une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le placement des mineurs en rétention administrative n'est pas illégal en soi et dans ces 5 arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme ne prohibe pas d'ailleurs la pratique en elle-même mais dénonce les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces rétentions. Pour la CEDH, elle constitue en l'occurrence une mesure disproportionnée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, souligne Nicolas Hervieux, juriste au CREDOF, le centre d'études et de recherche sur les droits fondamentaux.
La condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme est assez infamante pour la France puisqu'il s'agit de constater un traitement inhumain et dégradant infligé à des enfants, en plus une violation pour certaines des affaires du droit au respect de la vie familiale et également du droit à la liberté et à la sûreté. Donc cette salve de condamnation est particulièrement cinglante de la part de la Cour, même si encore une fois elle ne remet pas en cause le principe même de la rétention des enfants, ça constitue véritablement un désaveu à l'égard de la politique française et en particulier du gouvernement actuel qui s'était engagé initialement à mettre fin à cette pratique.
Car cette condamnation n'est pas une première et c'est d'autant plus inquiétant aux yeux des défenseurs des droits de l'homme. En 2012, la France avait déjà été condamnée dans une affaire similaire. François Hollande avait promis lors de sa campagne électorale de mettre fin à ces pratiques. En théorie, la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers limite la rétention des mineurs. En pratique, le nombre de familles placées en rétention est aujourd'hui deux fois plus important qu'en 2012, avec un constat plus préoccupant encore en Outre-mer et notamment à Mayotte.
Merci Florence Turme. Le tribunal administratif de Nîmes juge l'État en partie responsable de la mort du soldat Abel Chenouf, tué par Mohamed Merah. C'était à Montauban le 15 mars en compagnie d'un autre parachutiste. Le tribunal juge que la décision de supprimer toute mesure de surveillance de Mohamed Merah, prise à la fin de l'année 2011, est constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'État. L'action Nintendo qui bondit encore de plus de 12% aujourd'hui, qui poursuit donc ce sursaut spectaculaire des dernières séances. Le groupe de jeux vidéo a vu son titre flamber de près de 60% en 4 séances. Explication, le succès de son nouveau jeu pour smartphone qui s'appelle Pokémon Go. Abdellah Kelidrissi, bonjour.
Bonjour.
On va évidemment parler des raisons de ce succès, mais d'abord un mot sur le jeu lui-même pour ceux qui ne le connaissent pas.
L'idée de remplacer le héros du dessin animé, un jeune dresseur de Pokémon qui cherche à se constituer un cheptel de créatures magiques. C'est d'ailleurs le leitmotiv historique du jeu depuis sa création en 1996, attrapez-les tous. Le succès fulgurant de Pokémon Go s'explique par la possibilité de jouer directement sur son smartphone. Et c'est interactif puisque le jeu utilise la réalité augmentée via la caméra de son téléphone. Concrètement, ce matin, j'ai pu attraper deux Pokémon, dont le célèbre Pikachu, qui est apparu via l'écran de mon téléphone dans un coin du bureau. Enfin, ce qui rend le jeu addictif, c'est l'exploration de son quartier pour attraper les Pokémon. Grâce à la géolocalisation et à une carte qui indique dans quelle rue se trouvent les petites créatures.
Alors, évidemment, il y a les millions de joueurs qui se sont lancés dans ce jeu dit, vous l'avez dit, de réalité augmentée pour le plus grand bonheur de l'éditeur Nintendo. On a vu sur le cours de bourse qui grimpe, mais il y a quand même
des conséquences bien réelles pour les utilisateurs, il faut y faire attention.
Plusieurs médias racontent comment des joueurs ont eu des problèmes en essayant d'attraper des Pokémon en plein milieu de la circulation ou en pleine nuit dans des endroits mal famés car le jeu éparpille indifféremment les Pokémon dans l'environnement. Et puis les joueurs n'ont sans doute pas fait attention aux conditions d'utilisation, mais en installant le jeu, ils ont autorisé l'accès à de très nombreuses informations personnelles contenues dans le téléphone et même dans certains cas jusqu'à l'accès aux mails et aux photos. Ces données sont ensuite revendues à des entreprises qui proposent des produits ciblés en fonction de votre profil. Il est d'ailleurs probable que dans quelques semaines, des publicités apparaissent dans le jeu, car c'est la recette de ces applications. Un produit d'abord gratuit pour capter les utilisateurs, puis la monétisation sous forme de pub ou de service premium pour évoluer plus vite dans le jeu, mais en déboursant de la vraie monnaie.
Voilà, et vous avez un Pokémon là sur la table, ramassez-le vite, merci.
Attrapez à l'instant.
Elidrissi, un temps plus frais, un ciel variable, des averses, température 18 à 33 degrés, édition réalisée avec François-Charles Domergue. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal.